Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va vous parler de la suite et de la fin du CES 2024 avec de l'IA, des batteries infinies et plein de choses comme ça. On a aussi le GPT Store qui change les choses pour OpenAI et pour l'IA peut-être. Et enfin, la SEC qui approuve les spot ETF Bitcoin. Vous inquiétez pas, on va tout expliquer, c'est le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech. Nous sommes en janvier 2024, c'est l'épisode numéro... pas 2024, 548, on y arrive, hein, on avance lentement. On finira par y arriver un jour. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir, comme tous les mois, Marion Doumingue. Bonjour Marion, comment vas-tu ? Notre spécialiste UX résidente dans l'émission, ça va ?
Hello, hello Patrick, salut à tous. Bah, très bien, bonne année à toi. Je crois qu'on ne s'est pas vu depuis.
Non, mais non, bonne année.
Voilà, donc j'en profite.
Merci d'être là. Merci également à Damien Licata Caruso qui est là avec nous. Comment vas-tu ? Tu étais au CES et tu es revenu il y a quelques jours, fatigué de ce que je comprends.
Comme toutes les années. Ouais. Bonjour à tous. Meilleurs vœux, une très belle année tech, une très belle année perso aussi à tout le monde. CES, toujours un peu éprouvant, le décalage horaire évidemment, et puis les allées du salon qui étaient plus bondées que d'habitude. C'est un vrai retour en pleine puissance du salon, donc voilà, il fallait parfois slalomer, mais c'est aussi tout.
Tu as été coupé, j'ai Discord qui a coupé, qu'est-ce qui se passe ? On revient tout de suite. Ça y est, on est revenu. La connexion a gelé. Alors oui, on plaisante. Je précise que tu nous viens du Parisien. Merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps, Damien. Et la connexion a gelé parce qu'il fait moins 17 ici. C'est pas hyper rigolo, hein, je vous avoue. Au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Et ça a frisé la connexion. J'espère que ça ne passera pas trop de fois dans l'émission. Vous savez... Je fais une newsletter tous les vendredis que j'envoie aux gens qui sont abonnés. Et comme bonus, parce que j'ai plein de liens, des bonus, et comme bonus, la semaine dernière, j'ai mis une super crème pour les mains, Elisabeth Arden, que j'utilise vraiment maintenant. Et il y a des gens qui m'ont dit « Mais oh, j'ai pas vu, je pensais que c'était une pub, machin. » Non, il n'y a pas de pub dans la newsletter, peut-être un jour, mais à ce moment, il n'y en a pas. Mais cette crème pour les mains, j'en ai essayé beaucoup des crèmes pour les mains, hein, je vous promets. Et celle-là, elle rend pas les mains poisseuses, elle est hyper agréable, ça rend tout doux. Je vous la recommande, c'est la 8 Hour Cream, mais une version spéciale de la 8 Hour Cream, que je vous recommande très chaleureusement.
Voilà. Donc Patrick Béja, influenceur de mais crème pour les mains.
Écoute, influenceur beauté, c'est la prochaine étape. Déjà que je suis fit Patrick déjà là, enfin... Slim Patrick, Fit Patrick, ça arrivera.
C'est vrai.
Mais tu vois, c'est un chemin. J'ai toujours dit, je voudrais trois piliers de revenus pour soutenir mon activité. Le Patreon en est un, le principal évidemment. La pub en est un autre. Et peut-être que influenceur beauté et cosmétique, ça sera le troisième.
Et tu pourrais faire Beauty Tech, comme ça permettrait de rassembler deux passions.
Ce n'est pas la crème quantique, là, hein, que je vous recommande. Je ne cède pas à la...
Elle a peut-être été développée par IA. Tu sais jamais, maintenant, on fait des boissons gazeuses développées par IA, on n'est plus à ça près.
Attends, il y a des antibiotiques aussi, par contre, qui sont trouvés.
Alors
grâce
ça, oui,
à ça aussi.
Mais là, pour Exactement. Le coup, ben, tu vois, tu illustres un des thèmes que je voulais aborder pour le CES, qui est la vraie hype et la fausse hype, on en parlera dans un instant. Je veux quand même remercier aussi les gens qui ont répondu à l'édito que j'ai fait, où je parlais un petit peu de ma volonté, encore plus en 2024 qu'avant, d'appliquer une certaine mesure, de mesure justement dans mes jugements. Et ça veut dire donc de donner du contexte à ce que je dis et de ne pas céder à ce que je considère comme une sorte d'absolutisme internetien où il faut absolument être binaire, soit tout contre, soit tout pour chaque sujet qui sort. Et vous savez que dans ma méthodologie de travail, j'essaye toujours d'avoir... Alors, ça se caricaturise un petit peu avec l'avocat du diable, mais d'avoir un petit peu de mesure, ce qui ne veut pas dire forcément aller essayer de chercher le revers de la médaille dans tous les sujets quand il n'y en a pas. Parfois, il y a juste un truc qui est comme ça et c'est tout. Mais généralement, avoir un petit peu de mesure pour combattre cette AI, cet absolutisme internetien. Et j'en ai fait donc cet édito publié pour tout le monde ce week-end et vous avez été assez nombreux à répondre avec des approbations et aussi des commentaires constructifs sur ces sujets. Peut-être le fait, par exemple, que parfois je passe un petit peu trop de temps sur certains sujets et qu'on finit par tourner en rond. Donc je vais travailler à tout ça. J'apprécie beaucoup vos soutiens, en particulier parce que ça a provoqué certains départs du Patreon, par exemple, des gens qui trouvaient que j'étais à la fois trop à droite et trop à gauche. Enfin, bon, bref, parce que moi, je suis mesuré. C'est pas tout à fait centriste, c'est pas la même chose, mais mesuré, essayer de comprendre le contexte. Donc, vous avez apprécié cet édito, vous pouvez aller l'écouter. Il est dans votre flux. C'est l'épisode précédent, l'édito du week-end. Merci beaucoup pour vos réactions. Et également, merci aux Patriotes. Merci à Julien B, Marège, Étienne Acopcan et Lierpoc. Merci à vous tous d'avoir rejoint le Patreon et de soutenir justement cette approche un petit peu mesurée, trop rare, je crois, sur Internet et à laquelle je tiens beaucoup depuis longtemps. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup aussi aux producteurs Julien D et WakaTP qui ont trouvé le niveau secret super bien caché sur patreon.com/rdvtech. Vraiment difficile à trouver, hein. Je ne sais pas si vous y arriverez. Allez voir sur patreon.com/rdvtech pour voir ça. Et on se lance avec les infos de la semaine à retenir. La première d'entre elles, donc, c'est cette suite et cette fin du CES 2024. Il y avait d'autres infos, d'autres annonces intéressantes. L'une d'entre elles que j'ai retenue, c'est celle du Rabbit Air 1. Vous avez peut-être vu cette conférence qui était assez mignonne. C'est une toute petite start-up qui fait un produit, évidemment, IA, pour laquelle ils ont fait une conférence à la Apple Old School avec le fondateur Jesse Liu, je crois, qui était devant un écran. Genre, on fait une conférence pour des gens. Mais il y avait littéralement personne qui la regardait. C'était un truc préenregistré. Mais bref, ça a marché parce que tout le monde en a parlé. C'est un petit peu une version évoluée et moins chère du AI Pin de Human. Vous savez, c'est ce petit boîtier dans lequel il y a une connexion à l'IA, à une IA qui va vous comprendre quand vous parlez et qui va vous répondre avec la voix. Sauf qu'il y a aussi un écran, une petite molette et, comme sur le AI Pin, une caméra qui va vous permettre d'analyser votre environnement. Et la grosse différence, c'est que d'une part, il ne prétend pas remplacer le téléphone, et d'autre part, il ne coûte, entre guillemets, que $200. Donc, c'est un truc qui est beaucoup plus abordable comme achat pour voir, pour tester, que ne l'étaient les iPins qui coûtent 600 et qui, en plus, nécessitent un abonnement. Là où le Rabbit Air 1 se différencie vraiment dans sa communication et visiblement dans son intention, c'est un truc qui est intéressant, c'est le LAM, le Large Action Model, c'est-à-dire que généralement on a language models, des large language models qui sont conçus pour comprendre le langage. Là, il semble avoir travaillé sur un modèle qui est conçu pour effectuer des actions dans les apps. C'est-à-dire que oui, les IA peuvent nous comprendre, elles peuvent nous répondre, mais pour effectuer des actions, c'est pas encore ça. Et ben eux, ils en ont entraîné une spécifiquement pour effectuer des actions dans les apps, et ils ont marketé ça en tant que large action model, ce qui est pas bête et ce qui est un pont intéressant pour passer de la compréhension à l'action dans ce compagnon pour iPhone. Enfin, pour iPhone, pour téléphone, hein, mes biais se font bien sentir, je suis trop iPhone et trop anti-Android, ça on le sait depuis longtemps. Mais donc, ce large action model est plutôt un truc intéressant, je trouve. Qu'en avez-vous pensé? Je ne sais pas si tu as vu cette conférence, Damien. C'est plus convaincant que l'AI Pin? C'est la même poudre aux yeux? Qu'est-ce que tu penses?
Déjà, j'ai pas vu honnêtement la conférence et je ne t'ai pas vu non plus sur le salon, ce qui est dommage parce que ils profitent de la phase du CES pour lancer un produit. Ils n'étaient pas forcément très présents sur le salon. Il y a une énorme hype autour d'eux. Tout le monde en parlait évidemment là-bas, mais il n'y avait pas un stand où on pouvait aller même toucher l'appareil parce que là, pour l'instant, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement virtuel. Avec beaucoup de promesses, et ces promesses-là, elles sont liées à un appareil qui reste quand même connecté à des services cloud. On ne se retrouve pas avec un appareil où l'IA est embarqué. Et c'est là où je ferai la différence tout au long de l'année dans nos sujets sur l'IA. C'est cette capacité de l'IA d'être embarqué, à pouvoir fonctionner en local, et une IA qui passe uniquement par le cloud. Dans ce cas-là, l'appareil ne fait que le relais. L'appareil, il coûte peut-être que $200 parce que justement, c'est juste finalement quelque chose qui matérialise un service qui aurait pu être cloud et potentiellement gratuit.
Alors, en l'occurrence,
donc, je suis un peu sceptique jusqu'à présent sur le RabbitRN parce que il y a cette dimension-là. J'ai l'impression que c'est plus un raccourci pour l'instant et je vois mal le business model, surtout à 200 dollars. Qu'est-ce qu'on peut faire? et je me dis que si on arrive à avoir un assistant vocal, Siri, Alexa ou un autre qui arrive à franchir une étape supplémentaire dans la possibilité d'accéder aux autres applications, dans ce cas-là, ce produit-là va disparaître aussi vite qu'il est apparu.
C'est ça le gros problème, c'est que n'importe quel téléphone pourra faire exactement la même chose. Même si cette piste du large action model est intéressante, la manière dont ça fonctionne, bon, il fait tous les trucs que font les IA habituellement, hein, mais en plus, il peut effectuer des actions dans les apps pour lesquelles il a été entraîné. Donc, on lui dit, est-ce que tu peux me booker, me réserver un Uber ou un taxi pour aller à tel endroit à tel moment ? Et il va vous confirmer ça avec l'écran, avec un petit résumé, et vous validez ça, et du coup, c'est fait. Cette étape de... faire des actions dans les applications, c'est vraiment, vraiment important parce qu'on ne peut pas le faire encore, mais ça arrivera et n'importe qui pourra avoir cet avantage aussi. Donc, je ne sais pas s'ils auront le temps de prendre une part de marché importante pour rester comment dire, relevant, présent sur le marché quand tout le monde s'y sera mis. Marion, ça t'a inspiré ? T'as été dépenser tes 200 $ dans le RabbitRN ?
Absolument pas, je vois pas du tout l'intérêt. Ils se targuent de pas vouloir remplacer l'iPhone, mais en fait, t'as juste envie de ce qu'ils font sur ton iPhone ou ton smartphone, ouais, pour ouais, pas être pro Apple. Et certes, ils ont un design produit très sympathique, hein, fait par la société suédoise Teenage Engineering. Mais oui, le petit cube orange est mignon, le logo est sympa, mais en fait, ça justifie pas les 200 dollars à côté. Et surtout, j'ai pas envie de me coltiner un autre appareil à porter en plus de mon smartphone, où l'intérêt du smartphone, c'est d'avoir tout dans son smartphone. Donc là... Vraiment, je suis d'accord avec vous. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'aspect software qui pourrait être en fait fait dans une application. Donc, désolé pour eux, mais j'irai vers l'application.
Bon, voilà pour le Rabbit R1. Et oui, pardon.
Il y a aussi un petit problème de dépendance parce que c'est un produit qui va être connecté aux API des applications. Donc, il suffit qu'en fait l'application dise non, ça ne m'intéresse pas de participer à votre projet et il coupe le fil et puis terminé.
C'est un gros problème.
Oui. Oui, également.
C'est un gros problème que ce soit en termes de dépendance ou même de privacy, de vie privée et de sécurité, quoi.
Bon, on fera peut-être plus confiance aux gros constructeurs pour ça. Et je crois que sans déflorer les sujets qui viendront dans les semaines et les mois à venir, Apple a un coup à jouer là parce que tout le monde a tiré l'année dernière. Tout le monde a tiré les premiers. Apple, comme toujours, comme souvent, arrive après tout le monde. Mais s'ils réussissent à bien faire les choses et, par exemple, faire en sorte que Siri V2 puisse avoir des actions dans les apps, eh ben, ça pourrait couper l'herbe sous le pied à Rabbit, bien sûr, mais aussi aux autres constructeurs. On parlait de news fiables et pas fiables tout à l'heure. Il y a une news que je ne voulais même pas vraiment évoquer, qui a été partagée un petit peu partout. C'est celle d'un projet chinois d'une batterie qui permettrait de garder son téléphone chargé pendant 50 ans et en poussant un petit peu la recherche là-dedans, il y a vraiment, c'est que du foin. Enfin, il n'y a rien du tout. C'est des promesses qui disent « Ah, on utilise des batteries nucléaires, mais avec un nouveau matériau qui fait que ça n'émet pas de radiation, donc on pourra le faire un jour. » Ok, super. On va passer là-dessus assez rapidement parce qu'il y a un autre sujet qui est beaucoup moins sexy, mais beaucoup plus intéressant à mon sens. C'est un projet d'un nouveau type capteurs solaires qui peuvent charger vos appareils avec la lumière ambiante. Généralement, les capteurs solaires tels qu'ils ont été conçus jusqu'à maintenant, eh bien, ils sont plutôt bons pour capter la lumière du soleil et l'orientation est importante. Mais la manière dont fonctionne ceci permet aux appareils de tirer un petit peu d'énergie de la lumière ambiante, de la lumière artificielle chez vous, etc., etc. Et donc, au lieu d'avoir des cellules solaires basées sur du silicone, là, on a un autre type de cellule qui s'appelle dye sensitized, donc sensibilisée à la, l'encre ou la. Bon, bref, c'est un truc technique qui fait que vos appareils peuvent se charger dans la lumière ambiante chez vous. Et là, vous dites, super, je ne vais pas pouvoir, je vais pas avoir besoin de charger mon téléphone. Ben non, c'est pour ça que ce n'est pas sexy et que peu de gens en parlent. C'est que ça produit beaucoup trop peu d'énergie pour charger un téléphone, qui sont des super ordinateurs, comme ils le disent dans l'article du Wall Street Journal. Par contre, pour plein d'autres types d'appareils qui ont besoin de beaucoup moins d'énergie, de la calculatrice au clavier à plein, plein de trucs, eh ben, ça fonctionne beaucoup mieux que ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on atteint des niveaux de 38% de rendement, c'est bien au-dessus de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, et donc ça pourrait, alors vous allez me dire, ah mais j'ai déjà ce genre de truc, il y a des claviers qui marchent, ça. Oui, mais là ça marchera mieux pour ce qui existe déjà, et pour d'autres appareils aussi, puisque ça marche beaucoup mieux. Ça pour moi c'est beaucoup plus intéressant que cette batterie nucléaire qui chargera votre smartphone pendant 50 ans avec une seule batterie. Ça j'en ai entendu parler de ce genre de truc à de nombreuses reprises, j'y prête pas trop attention. Mais le truc, tout ça sera dans la newsletter, hein, bien sûr, vous pourrez aller regarder tout ça par vous-même. Mais ce truc solaire ambiant, je crois que ça a le potentiel de faire un petit pas beaucoup plus important que les révolutions qu'on nous promet.
J'ai vu un groupe suédois qui fournit pas mal en marque blanche de fabricants, justement, qui font des cellules ultra sensibles à la lumière, notamment à la lumière ambiante. Et ils ont équipé notamment des télécommandes pour les télés Samsung. Pour les nommer précisément, et d'autres fabricants de télé où la télécommande va avoir besoin d'aucune pile. Chaque fois, les petites piles LR3 qu'on cherche tout le temps et qu'on a du mal à remplacer, et ben justement, il y a une petite cellule sur le haut de la télécommande où ça va la recharger en permanence. Ils ont aussi appliqué cette technologie-là à un casque audio qui se recharge aussi à la lumière, qui est commercialisé par Adidas. Voilà, c'est une marque suédoise dont le nom m'échappe à présent, mais qui a un gros potentiel. En fait, leur stratégie, c'est clairement de faire de la marque blanche sur tous les produits. Donc, il y a moyen qu'on le retrouve dans nos nouveaux produits du type batterie qui peut se recharger assez facilement. Mais effectivement, les smartphones, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais, mais déjà, les appareils, en effet, type télécommande, souris, clavier, où en fait, c'est pénible quand ça tombe en rade parce que c'est vraiment pas le genre d'appareil qu'on regarde en termes de batterie, c'est super, quoi. Franchement, c'est déjà nous enlever toutes ces petites piles qu'on utilise, mine de rien, ou de penser à recharger quand il faut, quoi.
Exactement. Moi, je pense que ça a un impact. Et même si on parle d'environnement, le fait de ne pas avoir plein de piles, même si on a les bons élèves comme moi ont des piles rechargeables, bah, le fait d'en avoir moins, c'est déjà une bonne chose pour tous ces petits trucs. Et puis peut-être avoir des nouveaux types d'appareils qui peuvent être chargés de cette manière. Je ne sais pas, par exemple, imaginez ne plus avoir besoin de piles du tout dans des trucs comme des interrupteurs rechargeables pour connecter à votre maison connectée ou ce genre de choses qu'on peut poser partout, plus besoin de tirer les fils. Enfin, il y a vraiment des conséquences intéressantes si ça se concrétise. Là aussi, on est à l'état de projet, moins un projet théorique, on va dire, que ces batteries ridicules au nucléaire qui chargent vos smartphones 50 ans. Un autre petit truc que je mentionnerai du CES, c'est les micromoteurs MEMS français. Un nouveau type de micromoteur. Alors, les micromoteurs, c'est des tout petits moteurs qui sont prévus pour fonctionner avec des composants électroniques. Et c'est des moteurs, en fait, qui sont minuscules et qui ont généralement peu de pièces mouvantes à l'intérieur. C'est presque du solid state. Là, c'est des petites dents qui font bouger des petits trucs. Enfin, c'est français, les micromoteurs, c'est cool. Le lien sera dans les notes de l'émission. Vous pourrez aller voir ça. Enfin, dans la newsletter, vous pourrez aller voir ça en vous abonnant. Et c'est français, monsieur. Damien, un mot sur le CES auquel tu étais. Tu disais qu'il y avait plus de monde que les années précédentes. Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de ton voyage avant qu'on avance vers... le GPT,
ouais, si je devais le résumer, j'ai été surpris pour avoir fait les deux éditions précédentes. De la population qui était un petit peu plus étoffée. Mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'IA bullshitting. Je pensais qu'il y aurait de l'IA un peu de partout. Parce que pour avoir vécu l'édition de 2022, où c'était le Web3 de tout, la blockchain de tout, il y avait la blockchain de l'immobilier, la blockchain de ça. Là, je pensais qu'il y aurait de l'IA de l'immobilier, le chat GPT de quelque chose. Il y en avait beaucoup moins. Que prévu. Il y en avait quand même pas mal. On mettait l'IA un peu de partout, que ce soit dans les frigos, dans les voitures. Bon, ça, c'est une tendance de fond. Mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de gadgets liés à l'IA. Pour expliquer cette absence, je me dis qu'il y a aussi une baisse du financement des startups. Du coup, elles ont beaucoup moins de temps à consacrer au bullshit et elles se lancent dans des vrais projets avec des vrais débouchés commerciaux. commerciaux, pardon. Et du coup, ça permet en fait de filtrer en amont du salon les boîtes qui auraient aucun projet légitime. Mmh. Et c'était une assez bonne bouffée d'oxygène par rapport à ce qu'on a pu vivre sur d'autres éditions.
Un CES dont on ressort enthousiaste. La révolution est vraiment, vraiment arrivée.
Pour rigoler, est-ce que tu as un exemple du projet le plus tiré par les cheveux concernant l'IA que tu as pu voir là-bas?
Alors, il y a une grosse délégation coréenne et je peux vous dire qu'ils ont pris l'IA par le bon bout et parfois par le mauvais bout aussi. Donc, il y avait de l'IA dans n'importe quoi. Il y avait de l'IA dans les médicaments, l'IA dans l'immobilier. C'était un des rares, voilà. Ils mettaient aussi de l'IA dans la construction, on a toutes les sauces. C'était eux, en fait, c'était la troisième plus grosse délégation. La deuxième plus grosse délégation étrangère, évidemment, devant la French Tech, pour une fois. Donc, il y avait énormément de startups et qui étaient parrainées par les géants du secteur comme Samsung, LG et compagnie. Mais elles arrivaient avec des projets un peu fous et il n'y en a pas un qui sortirait du lot tellement il y en avait. Et il y en avait absolument trop.
Ouais.
Pour eux, je suis arrivé dans l'Eureka Park, il y avait un océan de startups coréennes. Et il y avait vraiment de tout et du n'importe quoi. Des projets extrêmement crédibles, portés par des universités et des projets un peu plus loufoques.
L'une des tendances qu'on a observées, c'est que tout le monde relabellise tout ce qu'ils font avec des algorithmes en IA. Donc, algorithme, c'est IA aujourd'hui, évidemment, c'est plus porteur.
C'est plus vendeur.
Deuxième sujet dont je voulais parler, c'est, on revient du côté de l'IA et de ChatGPT avec le lancement du GPT Store, qui est un moment très important pour OpenIA. Et donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Oui, on va encore parler d'IA, mais le GPT Store est un truc un petit peu différent des évolutions des modèles habituels avec il comprend mieux, il fait mieux de l'image, etc. Il y a deux éléments à comprendre pour comprendre le GPT Store et pourquoi il est important. D'abord, les agents IA, de quoi il s'agit, et ensuite, la boutique, vraiment, véritablement, qui est le sujet d'aujourd'hui. D'abord, les agents IA, c'est des versions customisées de ChatGPT. Sam Altman a présenté ça lors de la conférence du Open Dev Day OpenAI il y a deux mois. Et en fait, c'est une fonction qui permet à n'importe qui de conditionner ChatGPT. De le conditionner en lui donnant des instructions, des documents, des actions et des accès à des outils tiers qui font qu'on va avoir une IA qui est personnalisée, un agent qui est construit pour effectuer des tâches spécifiques. On peut le faire avec du langage naturel, donc vraiment faire des prompts, des requêtes, pour lui dire « alors maintenant, tu es un agent immobilier qui va aider les gens à trouver des appartements et ce genre de choses », et donc lui parler avec un langage naturel. Mais on peut aussi le faire avec des API qui vont communiquer avec ChatGPT pour indiquer à cet agent spécifique comment il doit se comporter. Et à partir de là, donc, on peut construire un GPT spécialisé qui est dédié à une tâche spécifique ou à ce qu'on peut imaginer, comme réserver des voyages, par exemple, c'est juste des exemples que je vous donne, réserver des voyages et réserver les trains, les avions, les hôtels, etc., parce qu'il aura les bons outils pour comprendre ce que vous lui demandez. Peut-être qu'on lui aura donné des documents pour qu'il sache bien de quoi on parle et des accès avec des API à des outils externes. Ou alors, par exemple, comprendre et expliquer spécifiquement la physique et la chimie à des élèves de collège. Je dis ça juste comme ça. Et on l'aura entraîné pour faire ça spécifiquement. C'était possible jusqu'à maintenant parce qu'on pouvait ouvrir une nouvelle session de ChatGPT et lui indiquer ce qu'on voulait qu'il fasse. Mais c'était beaucoup plus compliqué qu'avec les agents IA que rendent possibles aujourd'hui les systèmes d'OpenAI. On pourrait par exemple créer un présentateur d'infotech qui pourrait avoir le ton super mesuré et analytique d'un podcasteur à succès, par exemple, au hasard. Donc ça, c'est la première chose, créer des agents spécifiques et ils nous fournissent chez OpenAI tous les outils pour ça. L'autre côté de l'affaire, c'est le store, donc le GPT Store, le store qui permet de distribuer et de monétiser ces agents IA. C'est vraiment la plateformisation de ChatGPT d'OpenAI. Donc, on passe par l'interface toute simple de ChatGPT, c'est réservé aux abonnés à ChatGPT, à ChatGPT+. Donc, on passe par l'interface qu'on connaît bien et on peut choisir son agent qu'on veut utiliser et lui demander de faire des choses pour nous. Pour OpenAI, c'est vraiment plus qu'une simple interface, c'est un moyen d'amener ChatGPT et leur business à un tout autre horizon. On l'a connu avec Facebook. C'est notamment ce dont parle l'article de The Atlantic que j'utilise pour illustrer ce sujet, qui sera dans les notes de l'émission. Facebook a eu ce moment où ils ont ouvert leur plateforme aux développeurs et assez vite après ça, on a vu l'arrivée de Farmville qui a complètement transformé Facebook et Farmville est équivalent. La même chose avec Apple et l'App Store qui ont permis d'offrir les capacités des outils qu'ils avaient construits au monde entier, par cette plateformisation, par cette ouverture, par boutique. Et évidemment, OpenAI va donc bénéficier du savoir-faire et de l'expertise des développeurs externes, des développeurs tiers, et en même temps les rémunérer pour leur travail, et donc créer un écosystème, espérons-le, vertueux, pour développer l'IA au sein d'OpenAI. Donc, c'est pour moi surtout la concrétisation de cette idée que les IA, telles qu'on les connaît depuis 2 ans, les IA conversationnelles sont cool, mais nécessitent beaucoup de travail et de conditionnement pour être utiles. C'est rigolo au début, mais très vite, on est heurté à des limites de leur capacité parce qu'elles font trop de choses. Là, ça industrialise le conditionnement et donc la création d'IA spécialisées vraiment. On peut leur donner des documents à chacun de ces agents pour qu'ils se concentrent et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Donc là, on a des IA qui vont être spécialisées, qui vont peut-être décupler l'utilité de ChatGPT spécifiquement grâce à ces IA. En tout cas, c'est l'ambition d'OpenAI. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion ? C'est un move important, c'est une étape, ça va tout changer pour OpenAI. Ça a l'air, en tout cas, ça pourrait être quelque chose de gros, quoi.
Oui, je pense qu'ils étaient. C'est une course de vitesse ici pour eux, pour s'imposer comme la référence en termes d'intelligence artificielle et que les business commencent à se reposer sur eux et pas essayer de faire leur intelligence artificielle à leur sauce. Moi, j'utilise déjà tous les jours des assistants spécialisés. Donc, en fait, j'avoue que ça ne m'a pas du tout fait l'effet de ces nouveaux parce qu'en fait, j'utilise Dust et avec Dust, en fait, on a déjà plein d'assistants en fonction de ce qu'on essaye de faire, que ce soit travailler sur de la copie produit parce que c'est entraîné sur toutes nos règles, enfin nos guidelines, désolé, je vais faire de l'anglicisme là, mais nos règles
internes.
Ouais, interne. Ça a entraîné sur toute notre base de données interne, que ce soit données, Notion, Slack, GitHub, etc. Et donc, tu vas avoir des assistants qui sont customisés pour ce que tu essayes de faire. Et en fait, franchement, au quotidien, ça change vraiment la manière de travailler, quoi. Et c'est hyper, hyper intéressant parce que c'est là où, à la fois, OpenAI va voir quels sont les usages qui se démarquent des autres et sur lesquels potentiellement, il va falloir soit développer un peu plus des choses custom ou les favoriser, etc. Et potentiellement montrer s'il y a une vraie adoption ou pas de l'intelligence artificielle. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment de doute, mais ça peut vraiment être vraiment changer l'industrie ici.
Je dirais que la différence entre ce que tu décris et la méthode d'utilisation des IA par le GPT Store, c'est comme des logiciels customisés pour des sociétés à l'époque où la distribution était possible avant les App Store sur mobile. Et la facilité d'accès à tous les clients d'une plateforme par un développeur qui n'a pas besoin d'implémenter ses propres moyens de distribution. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller construire l'équivalent de Dust, alors peut-être avec moins de précision, mais en utilisant simplement une interface simple du GPT Store.
En fait,
et donc construire ça.
C'est ça, Dust. Hein. C'est une société qui va permettre à chaque boîte qui souscrit à Dust d'avoir ses propres assistants entraînés sur sa donnée. Sauf que là, c'est du B2B et OpenAI, c'est encore plus ouvert, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant.
B2B2C. Mmh. Ouais. Justement, je pense que ça correspond. On voit en fait maintenant se dessiner le modèle économique d'OpenAI parce qu'à un moment, Microsoft va peut-être leur demander de rentrer dans leurs sous. Donc, ils sont obligés de déployer, à un moment, forcément, c'est un investissement massif. Donc voilà, GPT Store, ça va correspondre à ce mouvement-là d'ouverture. On va essayer que le grand public s'approprie d'une manière ou d'une autre les GPT et au-delà de l'abonnement pur à ChatGPT. Donc c'est aussi un mouvement intéressant. Et puis ça vient concrétiser, depuis un an et demi, les boîtes s'étaient mises dans l'idée de mettre des développeurs spécialisés à créer des propres applications à utiliser en interne. Et là, on va leur donner sur un plateau plein d'agents IA qui seront plus faciles à intégrer que développer soi-même à partir de l'API d'OpenAI des fonctionnalités dont on n'a pas forcément besoin, qu'on aura besoin dans un temps limité. Donc je pense que ça, mon mouvement, ça permet de rentabiliser en fait tous les investissements précédents de manière très simple.
Si ça fonctionne, oui. Je crois que ça sera vraiment intéressant également de voir ce que vont faire les développeurs de ces outils qu'on leur propose. Parce que là, pour le coup, on n'a plus besoin d'une structure importante comme bah, Dust ou d'autres hein, qui font ce genre de travaux pour créer une IA conversationnelle customisée. Il nous suffit d'avoir accès à ChatGPT et n'importe quel petit développeur peut avoir des idées intéressantes pour créer des techniques différentes et des utilisations spécifiques pour un GPT de ce type-là. Donc, ça sera intéressant de voir ce que donne la créativité des développeurs et des petits développeurs également.
Alors, juste parce qu'on parle de ça, ce n'est pas que les développeurs. Hein, c'est ouvrir la porte à des business, des services, de la valeur. Bien sûr. Et là-dedans, c'est des développeurs, des personnes dans le produit, des designers, etc. Donc, c'est toute une panoplie de potentiellement nouveaux services, un peu comme ce qu'a fait l'App Store. Il n'y a pas que des développeurs là. C'est vraiment quelle valeur on va pouvoir amener avec l'IA. Et c'est ça qui est vraiment excitant.
C'est un petit peu ce que disait Sam Altman dans sa conférence. Il disait, l'une des choses qui est importante pour nous, c'est que bien sûr, on peut programmer ces agents avec des API, mais on peut également discuter en langage naturel pour lui expliquer ce qu'on veut qu'il fasse et puis lui uploader les documents, etc. Donc, c'est vraiment l'accessibilité qui est un maître mot dans cet outil. Avec, évidemment, le fait que l'un des atouts principaux de l'IA, c'est que l'interface utilisateur, comme je le dis souvent, est transformée d'un truc écran, discussion, codé, compliqué, en langage naturel. Et c'est ça qui est le vrai gros changement de l'IA, c'est qu'on peut expliquer à l'ordinateur ce qu'on veut faire en lui parlant normalement. Et c'est le cas aussi ici. Espérons qu'ils mettent les garde-fous nécessaires pour les différentes applications et différents agents qui seront créés. Ils disent vouloir le faire en tout cas. Troisième sujet que je voulais évoquer, les infos importantes à retenir, c'est la SEC qui approuve les spot ETF Bitcoin pour la première fois. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Je vous explique tout. En fait, ce qui se passe, c'est que la SEC a approuvé l'utilisation, l'implémentation de Bitcoin dans des ETF. Les ETF, c'est les Exchange Traded Funds. Donc, en gros, c'est des fonds d'investissement qui sont achetés et vendus sur les marchés financiers. Et jusqu'à maintenant, les autorités américaines de régulation des marchés financiers n'autorisaient pas ces fonds à intégrer les Bitcoins. C'est ça qui change. N'autorisez pas les fonds à intégrer les bitcoins en temps réel. Le suivi des bitcoins en temps réel. C'est ça le spot ETF. Spot, c'est en temps réel. Et donc, aujourd'hui, ils ont autorisé une poignée de fonds à le faire, donc à intégrer des bitcoins dans leurs fonds. Et donc, n'importe qui peut acheter et vendre ces fonds avec des bitcoins dans la liste, comme on le disait la semaine dernière avec Cédric. Et du coup, acheter et vendre les fonds et les bitcoins, comme on le fait aujourd'hui avec des actions, avec la même réactivité, avec la même rapidité sur la spéculation. C'est doublement intéressant cette annonce parce que, d'une part, la veille de l'annonce officielle, le compte de la SEC de Twitter a été hacké et a annoncé que l'approbation avait été faite, alors que ça n'était pas le cas avec un scam, bien sûr, comme on pourrait l'imaginer, aller là-bas et vous pourrez avoir plein de crypto-monnaies super qui vaudront plein d'argent. Le lendemain, ils ont dit « Oh, désolé, on a été hacké. » Mais oui, oui, on a bien approuvé le truc. Bon, c'est un timing rigolo. L'autre truc vraiment intéressant, c'est que la SEC, elle n'a pas approuvé du bout des lèvres. Elle a approuvé vraiment en se bouchant le nez et en le faisant du plus loin possible, en disant « Alors, les cryptos, on n'aime toujours pas ça. Les bitcoins, c'est pas quelque chose de sérieux. On va continuer à réguler la chose comme des matériels, comment on appelle ça ?» Des securities et des... C'est-à-dire que c'est des investissements d'existants et pas de valeurs boursières. Donc, on va réguler ça. Faut pas frauder, etc., etc. Donc, il continue même à dire, nous pensons que le Bitcoin et les cryptos n'ont pas vraiment d'usage légitime, quoi. Et pourtant, ils l'ont approuvé. Pourquoi ils l'ont approuvé, du coup ? Bah, pour se mettre en adéquation avec la réalité du marché et de ce qui s'y passe. Je laisserai à chacun. Je pense que c'est plus compliqué que juste ça. Pourquoi ils l'ont fait je pense qu'il serait important de ne pas trop juger durement la décision sans en connaître les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, il reste cette dichotomie étrange du fait qu'ils ont été contraints de l'approuver. Enfin, c'est pas qu'ils ont été contraints, c'est qu'ils ont fini par le faire volontairement, alors qu'ils continuent à penser que les bitcoins n'ont pas d'utilité, voire sont utilisés pour des choses pas tout à fait légales, quoi. Il n'empêche, ça légitimise beaucoup le bitcoin. C'est pour ça que la valeur continue à augmenter ces derniers mois. Et ben là, ça risque de pas s'arrêter, quoi. Un avis sur la chose,
ça s'est bien calmé quand même depuis l'annonce de la SEC. Effectivement, je pense qu'ils ont aussi essayé de saisir le moment pour essayer de réguler un peu plus quelque chose qui était en train lentement de leur échapper. Donc c'était le moment ou jamais pour le faire. Après, il y a un énorme lobbying des BlackRock et compagnie pour eux aussi, qui se sont bien rendus compte qu'il y avait de l'argent à se faire à travers ce trading-là. Donc c'est intéressant pour eux. Le libertaire que je suis pleure un peu de voir que le Bitcoin est maintenant centralisé et qu'il appartient à la bourse. C'est un peu dur à accepter, mais bon, il fallait un moment aussi qu'on arrive à légitimer les investissements que pouvaient faire des gens dans le monde entier. Ça fait des années maintenant qu'il y a des plateformes d'échange de crypto. C'est une économie qui est bien réelle, qui emploie des gens, qui implique beaucoup d'échanges et qui coûte aussi de l'argent à des gens dans la vraie vie. Donc à un moment, il fallait qu'il y ait cette représentation dans la première place de capitalisation boursière du monde, qui est Wall Street, évidemment. Donc c'est important, je pense. Ça permet de rentrer dans une autre phase.
Alors ça, c'est sûr, mais tu dis c'est important, il fallait... Je voudrais push back un peu sur cette idée. Était-ce vraiment important? Est-ce que tu me dis le libertaire, donc j'imagine que tu vas monter sur des chevaux de taille importante. Est-ce vraiment important? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que le Bitcoin sert vraiment à quelque chose plus de 10 ans après sa création? Est-ce que c'était inévitable de le légitimiser comme ça, vraiment?
Je pensais que oui, ça faisait partie d'une étape de développement du Bitcoin.
Et ah, alors moment, pour le Bitcoin,
il y
oui.
Il y a tellement d'argent en circulation. Et puis en fait, ça ouvre la porte aux autres cryptos parce que finalement, l'horizon à très court terme, c'est un ETF Ethereum, c'est un ETF sur d'autres stablecoins qui sont là aussi, qui existent et qui représentent une capitalisation monétaire qui dépasse plein de boîtes, quasiment plein de boîtes du CAC 40 notamment. Donc à un moment, il faut que ça, pour l'avenir de ces écosystèmes-là, il faut un moment qu'il y ait une supervision minimale parce que ça contraint aussi un peu la philosophie d'origine de tout ça. Mais je pense que ça permet aussi de rassurer les gens et ça permet aussi d'attirer des investissements, notamment chez les jeunes, parce que ça permet aussi de sortir les jeunes de l'investissement boursier classique où on connaît l'opacité vers les crypto-monnaies où la blockchain permet une certaine transparence. Donc j'espère personnellement qu'il y aura ce genre de transfert. Est-ce qu'après, on ne va pas retomber dans les mêmes travers que les actions classiques? Il y a un énorme risque, évidemment.
Sur l'Ethereum et même les autres stablecoins, je crois que j'aurai moins d'interrogations sur l'utilité et la légitimité, mais sur le Bitcoin, je reste un petit peu sceptique, quoi. Mais bon, écoute.
Après, le Bitcoin, faut sortir aussi un peu l'image à l'ancienne du Bitcoin. On a une traçabilité maintenant qui permet quand même d'établir, notamment les autorités et la police nous l'expliquent assez régulièrement. Maintenant, c'est très très dur de lessiver de l'argent sale avec du Bitcoin. Et voilà, donc il faut sortir un peu de cet a priori-là.
Non, c'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est l'utilité tout court. Pour moi, le Bitcoin n'a pas prouvé qu'il résolvait un problème existant autre que de pouvoir faire de l'investissement et de la spéculation. Mais c'est peut-être un autre sujet.
Spéculation sur des matières premières, sur des actions qui sont tout aussi... Je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, mais j'ai quand même trouvé une utilité. Voilà, je préfère le préciser, mais je trouve qu'il y a quand même une utilité et qu'on n'en est absolument qu'au début. Donc, autant essayer de le faire rentrer dans une certaine ligne et puis ensuite voir ce qu'on peut en tirer.
Donc voilà pour les sujets que nous voulions évoquer aujourd'hui, les sujets principaux. On va passer aux news et aux rumeurs, mais avant ça, je vous rappelle que la valeur sûre et importante qui est un investissement dans votre compréhension de la tech, c'est le Patreon du Rendez-vous Tech. C'est Patrick, en fait. Patrick, Patreon, il y a une base commune et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous investissez dans Patreon, vous n'aurez peut-être pas de retour financier, mais vous aurez un retour de cerveau un retour intellectuel qui sera forcément positif puisque vous comprendrez mieux la tech, vous la comprendrez avec discernement et analyse, j'espère, intéressante. Et c'est grâce à vous que ces émissions sont possibles, que ce discernement est possible. Donc, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui vont sur patreon.com/rdvtech. Ça ne vous rendra peut-être pas riche, mais ça vous permettra de comprendre la tech. Et c'est peut-être un moyen important pour comprendre la société et donc pour prendre les bonnes décisions qui auront peut-être des conséquences positives à terme. Un grand, grand merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. patreon.com/rdvtech pour soutenir cette émission si vous appréciez le ton, la ligne et l'humour sans faille dont je fais preuve chaque semaine.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
On continue avec le reste de l'actu. Le reste de l'actu avec quelques grands thèmes que je souhaitais aborder. D'abord, un truc dont je n'ai pas parlé spécifiquement, je crois, mais qui est en fond depuis des mois et des mois. Enfin, si je l'ai évoqué ici et là, mais je voulais faire un point dessus. C'est la manière dont la Chine est impactée par les restrictions à l'export sur les puces IA. C'est quelque chose qui est véritablement présent dans ma veille à peu près chaque semaine. Il y a chaque semaine plusieurs sujets qui font état de la situation. En gros, si les conséquences ne sont pas dramatiques immédiatement, on se rend compte que la Chine est quand même en train d'essayer par tous les moyens, d'une part, de s'approvisionner en puces puissantes, généralement construites et conçues par NVIDIA. C'est la source principale. Hein. Donc, ils essayent par tous les moyens. Ils font à Miami avec des Japonais. Ils achètent par des dizaines de sociétés différentes autant de puces que possible, par quelques dizaines parfois, etc., etc. L'importation de puces chute, évidemment. Mais il y a une chose, une conséquence qui est encore plus intéressante à étudier. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a quelques mois de ça. C'est le RISC-V, c'est comme ça que ça se dit, qui est cette nouvelle architecture open source pour les puces, qui est open source, donc qui est disponible pour tout le monde, et qui est du coup au milieu d'une sorte de débat aujourd'hui aux États-Unis, parce que certains, en particulier chez les politiques, se disent si on est en train de bloquer l'accès à l'IA à la Chine par tous les moyens qu'on peut et qu'à côté de ça, il y a un truc en open source qui est disponible partout et que les Chinois peuvent utiliser pour développer leur propre technologie, peut-être qu'il faudrait s'intéresser à une restriction du RISC-V et de l'open source de cette manière. Bon, évidemment, les spécialistes comprennent que c'est plutôt difficile, surtout que RISC-V est désormais une fondation qui est hébergée en Suisse plutôt qu'aux États-Unis, justement par volonté de neutralité. Mais c'est vraiment un sujet. Il y a je vais vous donner un exemple. Ça, c'est plus les puces en général que l'IA. Mais en Corée du Sud, il y a eu une annonce de Samsung et SK Hynix qui ont planifié leurs investissements jusqu'en 2047, donc un peu plus de 20 ans. Ils vont investir 470 milliards de dollars sur les 23 prochaines années. 470 milliards, je me souviens qu'on avait fait un plan à combien, quelques dizaines de milliards en Europe, et on se disait, ouais, on va avoir des super usines de fonderie. 470 milliards, bon, c'est important pour la Corée du Sud de rester très compétitif là-dessus aussi, mais quand même. Risque 5, Chine, c'est vraiment un sujet qu'on entend partout, avec l'IA notamment, mais est-ce que la Chine peut développer ses technologies elle-même à partir de Risque 5? Est-ce que ce n'est pas une autre architecture avec d'autres utilités? Bon, c'est ce qu'utilise NVIDIA, mais ils ont tellement d'expertise. Je ne sais pas si la préoccupation est fondée. Et puis surtout, on ne peut rien y faire, quoi. On ne va pas bannir l'alphabet, comme certains le disent dans l'article, que je mettrai dans la newsletter, bien sûr, l'article du New York Times. On ne va pas bannir l'alphabet parce qu'il y a des gens qui font des livres avec, quoi. C'est un petit peu ça, la comparaison. Un peu tiré par les cheveux, mais quand même.
Légèrement. Mais le problème, une fois de plus, avec la Chine, c'est que c'est une immense boîte noire. Donc, ça se trouve, ils sont déjà en train de développer leur propre puce. Ils n'ont pas attendu forcément qu'il y ait un modèle open source. Et peut-être qu'ils sont aussi en train de développer des modèles d'IA qui font appel à, qui sont moins gourmands en calcul. Et justement, la contrainte que leur ont imposé les États-Unis, c'est devenu un avantage pour eux parce qu'ils se sont dit, on doit faire plus avec moins. Donc, ils ont peut-être trouvé des modèles d'IA qui sont capables de tirer le meilleur des puces actuelles. Et en parallèle, leurs ingénieurs sont très bien capables de développer leurs propres puces. On a été souvent surpris par la Chine. Et à un moment, il faudra en tirer des leçons. On peut prendre un exemple parmi d'autres, mais TikTok, on l'a pas vu arriver. C'est des algorithmes ultra puissants qu'on n'a pas vu arriver, qui sont sortis de nulle part. Et c'est les Chinois qui l'ont développé tout seul. Parce que maintenant, il faut se dire que les ingénieurs chinois sont au même niveau que les Européens et que les Américains. Ils ont fait les mêmes universités. Ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont les mêmes procédures de développement. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes.
C'est, alors, il y a quand même des niveaux d'investissement. Bon, la Chine n'est pas sans moyens, hein, mais il y a un niveau de rigueur. Je vous encouragerai encore une fois à lire Cheap War, le livre que nous recommande Cédric, encore lui, régulièrement, et que j'ai absolument adoré, pour bien comprendre ce qu'implique ce genre de choses. Mais c'est sûr que s'il y a un pays qui pourra y arriver, bah oui, la Chine en a les moyens, en tout cas. Je ne sais pas si ça va se passer de cette manière. Hein. Il y a d'autres choses derrière qui font que, mais n'a pas tort. Un autre sujet que je voulais évoquer rapidement, c'est le Vision Pro d'Apple. Et alors, il y a plein de détails sur les démos qui vont prendre 25 minutes, qui vont nécessiter de scanner votre visage avec un iPhone. D'ailleurs, pour commander un Vision Pro, qui sera en vente début février, rappelons-le, il faut avoir un iPhone ou un iPad pour scanner son visage. Hein. Sinon, on ne peut pas commander. Donc, à la base, voilà, c'est pour ces gens-là. Mais il y a un truc qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est la nouvelle communication et les nouvelles guidelines d'Apple sur le Vision Pro qui demandent aux développeurs de ne pas parler de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, mais de spatial computing, d'informatique spatialisée, peut-être qu'on traduit ça comme ça en français. Je trouve que c'est assez typique d'Apple de vouloir mettre son nom sur un truc qui existe ailleurs, mais en même temps, je trouve qu'ils maîtrisent bien la communication sur tout ça, parce qu'on comprend qu'effectivement, ils essayent de créer autre chose, quelque chose de différent. Marion, est-ce que ça veut dire quelque chose, l'informatique spatialisée, le spatial computing, ou c'est vraiment un terme bullshit marketing d'Apple ?
Désolée.
Il y a un chat qui t'a sauté dessus.
Une petite interruption de l'émission. oui, donc je pense que à la fois ils ont raison et à la fois c'est de la communication marketing, mais en effet je pense qu'ils veulent s'affranchir un petit peu du passé qu'on a accroché à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, parce que c'est ni complètement l'un ni complètement l'autre. Et en fait, on essaye encore de comprendre exactement quels seront les usages les plus clés, finalement, du Vision Pro quand il sortira. Et ça me fait un peu penser, et pourtant c'était moins exploratoire à l'époque, à la sortie de l'Apple Watch. Ils avaient testé plein de choses, il y avait plein d'apps, il y avait pas mal d'attentes sur « vous allez pouvoir faire des choses sur vos apps sur l'Apple Watch ». Et en fait, en pratique, les gens n'interagissent pas avec l'Apple Watch. C'est plutôt assez passif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de succès, au contraire, mais ça a trouvé son usage de manière différente. Et ils ont ensuite un peu pivoté et fait mûrir l'image et la communication autour de l'Apple Watch sur plus du fitness, etc. Et là, en fait, voilà, je pense qu'ils ouvrent, ils mettent un terrain qui est fertile, ouvert pour que les gens se l'approprient et qu'on voit les usages principaux émerger. Et donc, ils essaient de s'affranchir un peu de toutes les autres attentes qui ont été un peu déçues au fil des années attachées à ces termes déjà existants.
C'est ça le truc, c'est que si tu ne, n'appelles pas ton produit comme ceux qui n'ont pas super bien marché ou qui ont été décevants les années précédentes, bah, on le compare moins facilement et donc et c'est pour ça qu'ils le font, je pense, en plus du fait que le produit est effectivement différent, mais c'est, si tu te différencies, si tu n'es pas la même chose, bah, on te compare moins, c'est sûr.
Bien sûr. Si je peux revenir un peu sur la procédure, là, parce que je l'ai essayé, du coup, le Vision Pro en juin, on l'a mis sur le nez, et c'est effectivement, je comprends qu'il est 25 minutes, en fait, de préparation et qu'on nous explique comment, parce que c'est pas du tout intuitif, en fait, au début. Et le scan du visage aussi, ça correspond au fait de bien pouvoir le placer, parce que ce qui va beaucoup jouer, c'est le fait de l'avoir correctement devant les yeux et de pouvoir, en fait, le diriger avec les yeux, ce qui est contre-intuitif complet. Donc voilà. Après, ça aussi implique de mesurer le niveau de correction qu'on doit avoir, parce que les gens qui portent des lunettes ne vont pas pouvoir en porter avec le Vision Pro. Donc il faut savoir exactement quelle est la correction que le Vision Pro doit avoir pour vous.
Centaines de lentilles de correction dans tous les App Store pour pouvoir bien convenir.
Bien sûr. Donc voilà. En fait, ça va être un casque sur mesure au début. Et ce qui explique à la fois son prix. C'est difficile de faire du mass market quand c'est sur mesure. Mais voilà, après, la prise en main n'est pas forcément très intuitive. Ce qui manque, Vision Pro, jusqu'à présent, c'est l'ironie, c'est qu'il lui manque une manette ou quelque chose pour le diriger. Parce que honnêtement, avec les yeux, ça marche, mais le faire 25 minutes, c'est compliqué. Alors, le faire une heure, si on veut parler vraiment d'informatique d'une nouvelle génération, il va falloir à un moment lui donner les accessoires. Et ces accessoires-là, c'est peut-être pas Apple qui va le produire, mais il y aura certainement un marché à prendre pour les accessoiristes sur le Vision Pro.
Peut-être, oui.
Et tu n'as pas interagi avec les mains ?
Un peu, mais la principale avancée, c'est quand même d'utiliser tes yeux comme tu utiliserais la souris. Donc, tu vas pointer et puis après, tu vas claquer des doigts pour ouvrir l'application.
Ouais, ça t'a fatigué ou pas ?
Pour avoir testé d'autres casques de réalité mixte ou de VR, il n'y a plus la même contrainte et elle est physique, c'est qu'à un moment, ça te pèse sur le crâne, t'as un peu chaud et t'as quand même un écran qui s'est rapproché de tes yeux. Alors bon, on est au contact des écrans toute la journée, mais on a quand même une certaine distance, normalement, même avec son PC. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même un phénomène de sécheresse oculaire et qui est purement physique et n'importe quel algorithme ou n'importe quel hardware n'arrivera pas à solutionner ça.
L'Apple Vision Pro Plus intégrera un petit distributeur de collyre qui t'enverra, tu sais, un petit pchit dans les yeux toutes les quelques minutes pour t'humidifier un petit peu la rétine. Ça me fait penser ce que tu disais à Steve Jobs qui disait « Si on doit avoir un stylet, on a déjà perdu. Le meilleur outil, c'est le doigt, on l'a. Tout le monde l'a sur nous. » Donc, peut-être qu'ils vont réussir à faire utiliser juste les yeux à condition d'avoir le bon collyre qu'il faut dans le casque. Un autre sujet qui est un petit peu comme ça ambiant dans la veille, c'est la collision dans l'année 2024 entre des élections partout dans le monde, le plus d'élections depuis longtemps et pour longtemps, et bien sûr l'arrivée de l'IA et de l'IA générative qui supercharge la désinformation et pour laquelle on n'est pas encore complètement équipé. En gros, ce dont préviennent différents organismes, c'est qu'on n'est pas encore prêt, on n'a pas l'expérience pour combattre ou déjouer ou gérer l'IA et la désinformation produite par IA. Et déjà, on a une année qui est une année record en termes d'élections. Donc, il y a de grosses inquiétudes à ce niveau. Bon, maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. On verra, même si tout le monde dit « oui, on va gérer, on va faire comme ci, on va faire comme ça », OpenAI y compris, hein, ils ont publié un article qui, franchement, dit pas grand-chose, il dit « on va faire de notre mieux ». Ça risque de poser un problème cette année où non seulement il y a les élections aux États-Unis, évidemment, mais pas que ça, il y a des élections partout dans le monde.
Ouais, et puis même pour rebondir Damien, je t'ai coupé.
Non, je t'en prie.
Mais pour rebondir sur ce que OpenAI a publié, C'est une mise à jour des conditions d'utilisation de leurs outils d'intelligence artificielle. Et en fait, ça interdit l'usage, mais il n'y a rien qui prévient en fait le problème. Alors certes, ils veulent utiliser cette espèce d'accréditation numérique, le C2PA, qui va être utilisé par d'autres outils comme Microsoft, Amazon, Adobe et Getty, pour justement tracer les images et pouvoir mieux les identifier et s'assurer de leur provenance. Donc ça c'est
savoir
bien.
Qu'une IA a été générée par IA en gros,
exactement,
marquée pour qu'on puisse le savoir.
Donc c'est quelque chose d'assez évident, j'aurais dit. Je trouve ça bien, mais ça me paraît même évident. Mais il n'y a pas beaucoup de choses très très concrètes en fait pour sortir les grands mots et dire protéger la démocratie, mais
mais en combattre la désinformation, on va dire. On va revoir nos ambitions et dire combattre la désinformation.
C'est ça. C'est beaucoup.
Ouais. C'est pas mal.
Mais par exemple, au CIS, il y avait des boîtes, des toutes petites boîtes, notamment une boîte française, qui présentaient des outils de détection des images créées par IA. Le problème, c'est qu'elles en sont à une phase embryonnaire et elles n'ont pas forcément les financements qui vont permettre de les intégrer sur du X. Donc sur X, il y a Community Notes qui va pouvoir faire un travail mais purement humain de détection. Donc ça va se jouer vraiment au coup par coup. Mais si on rentre dans des campagnes massives de désinformation avec la manipulation d'images, ça va être une année 2024 extrêmement compliquée. Vu les enjeux, ça va être très compliqué.
Puis c'est encore une fois une course de vitesse, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on arrive à les identifier que le mal n'est pas fait finalement, parce que c'est toujours après coup. C'est ça aussi la difficulté, je trouve.
Tout à fait,
et
oui.
Et puis sur le Darknet, apparemment, il y a même des outils de création de campagnes de phishing, par exemple, tout automatisé. D'ailleurs, ils ont fait des agents IA qui ont réussi à corrompre un peu de ChatGPT. Il y a du WormGPT, il y a d'autres outils dont je vais taire le nom, qui permettent en fait de faire des campagnes clés en main de phishing. Si on peut l'appliquer à des détournements commerciaux, on peut l'appliquer à des détournements politiques. Donc, il n'y a pas de souci. Les outils sont déjà là, en fait.
Alors, si vous voulez un exemple du type d'industrialisation que ça amène, l'IA, il y a un article que je n'avais pas mis dans les notes, mais que je vais évoquer du coup, qui explique la manière dont on peut trouver sur Amazon des produits dont le nom est « Je suis désolé, mais je n'ai pas l'autorisation d'utiliser ce type de nomenclature qui copie une marque existante ». Pourquoi est-ce que le produit s'appelle comme ça ? Parce que, évidemment, ils ont été générés par une IA, sans doute ChatGPT, et ça a été tellement automatisé que les personnes qui créent ce genre de produit vont publier sur Amazon un produit qui garde le nom inepte, comme ça, parce qu'ils derrière, il y en a sans doute des dizaines qui passent avec des vrais noms générés par IA, quoi, et des descriptions, etc., etc. On peut imaginer que les fermes à trolls en Russie, notamment en Corée du Nord ou en Chine, sont déjà en train de tourner à plein régime et à se préparer. Quelques notes rapides supplémentaires. D'abord, Free s'est engagé à ne pas augmenter les prix de ses deux forfaits mobiles jusqu'en 2027, ce qui est tout à fait louable. Frandroid, voilà, a découvert que en fait le prix du forfait à 2 euros restait le même, mais que la quantité de données était divisée par 5. On passe de 5 à 1 gigaoctet de données. Donc oui, on ne monte pas les prix, mais on réduit. Bon, c'est juste sur celui-là, ce forfait qui est à 2 euros reste quand même intéressant, je pense. Vous m'interrompez si vous avez quelque chose à ajouter sur ces sujets-là. Microsoft va bientôt tomber sous le coup d'une enquête par l'Union européenne pour ses liens avec OpenAI. Ils sont quand même très, très, très proches. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour Microsoft d'avoir tous les bénéfices d'une acquisition sans les défauts ? L'UE va enquêter et on verra de quoi il en retourne. C'est intéressant à noter dans un contexte où Microsoft est devenue la société la plus grosse société au monde par valeur boursière. Ça a duré pas très longtemps, quelques heures. Apple a repris la première place juste après, mais je trouve que ça montre bien à quel point Microsoft, alors c'est pas que ce soit une petite société, Microsoft évidemment qu'on la considère comme un GAFAM et comme l'un des géants de la tech, Mais on a tendance parfois à l'oublier un petit peu. On parle beaucoup d'Apple, d'Amazon, de Facebook. Mmh. Mais Microsoft, surtout avec la gestion de Satya Nadella qui a été absolument exemplaire, est vraiment une société majeure, l'une, enfin bon, comme les quatre autres, hein, mais on ne se rend pas compte à quel point ils sont gros. Et surtout, leur travail, ce n'est pas un pari risqué, c'est un travail de fond sur l'IA, leur a permis d'avoir ces perspectives hyper positives aux yeux de la bourse, en tout cas. Oui, pardon, Damien.
On en avait parlé il y a pas très longtemps, justement, la précédente émission à laquelle j'avais pu participer, on avait parlé du lancement de Windows 11, et la réflexion, c'était de dire que Microsoft avait du mal à réenchanter sa politique de communication, et qu'on avait du mal, par exemple, à suivre tout simplement sa keynote. Ça intéressait beaucoup moins de gens que la keynote d'Apple ou d'autres produits Facebook ou Google. Et là, en faisant une quasi-acquisition d'OpenAI, ils ont réussi quand même à remettre de la magie dans les produits Microsoft. Je ne me rappelle pas de la dernière fois on a attendu avec autant d'impatience qu'un produit comme Copilot sorte, qui soit à la portée de tout le monde. Et c'est un produit Microsoft, finalement, c'est un produit Office 365 qui sur papier ne devait pas faire rêver, mais finalement, on s'attend tous à voir ce qu'il peut nous apporter dans la vie de tous les jours.
On est d'accord.
Qui n'était pas le cas avant.
Et une intégration à Windows qui pourrait changer la manière dont on utilise cette IA. On mentionne dans la chatroom 40 ans, même plus que 40 ans pour Microsoft, et toujours au sommet, effectivement, c'est grâce à Satya Nadella. Et c'est intéressant de noter que Apple est également toujours au sommet grâce à Tim Cook. Alors lui, on le célèbre un petit peu plus parce qu'Apple fait beaucoup de bruit et a une énorme série de succès. Mais c'est vrai que Tim Cook aussi, on se souvient qu'à la mort de Steve Jobs, il y a un petit peu plus de 10 ans, on donnait pas cher, enfin, on était plus que circonspect sur Apple et la capacité de Tim Cook à continuer le parcours d'Apple. Alors, il y a peut-être un peu moins d'innovation, même s'il y en a quand même, et un petit peu plus de comment dire, d'infrastructure et d'industrialisation. Mais Apple est genre, je sais pas, 5-10 fois plus gros qu'à la mort de Steve Jobs, quoi. C'est assez phénoménal.
Apple a réussi à pivoter d'une entreprise avec une communauté qui faisait du hardware à une entreprise qui s'adresse à tout le monde, qui fait des services, du hardware, qui arrive à monétiser absolument tout ce qui sort. Et c'est pour ça que la sortie de l'Apple Vision Pro est certainement le plus gros pari de Tim Cook. Et ça ne sera pas uniquement tout son héritage, mais une partie va jouer dessus, parce que là, il est en train d'inventer une catégorie de produits qui est tout nouvelle, avec tous les risques que ça peut impliquer.
Possible qu'il quitte la boîte après, hein. D'ici un ou deux ans. Au bout d'un moment, il va finir par partir, Tim Cook. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à la tête. Bon. Je vais juste mentionner comme ça que, d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'à la tête des sociétés, de ces plus grosses sociétés, il y a souvent des gens qui sont des gens issus de minorités. En tout cas, dans la majorité, il y a Satya Nadella, enfin de minorités. C'est pas que des blancs cis hétéros. Tim Cook est homosexuel, Satya Nadella indien, à la tête
Sundar.
De
Google. Et Sundar est indien.
Sundar, exactement, voilà. Donc, c'est juste comme ça, un truc intéressant à noter. Et d'ailleurs, Apple se prépare à diviser son App Store pour satisfaire aux règles du DMA qui devrait entrer en force en mars. Donc, bientôt, sideloading sur Apple, ça arrive. Et voilà, il y a quelques autres sujets. Peut-être que je garderai l'explication de ce qui se passe sur Substack et des raisons pour lesquelles Platformer quitte Substack. J'en parlerai peut-être dans l'after show dans un instant, avec quelques petites news en plus. Et je mets dans les notes de l'émission également une analyse du back-end du Fediverse et des différents providers qui fournissent les services. Et c'est intéressant de voir que la décentralisation, eh ben, elle est difficile à implémenter parce que, en l'occurrence, le Fediverse et Mastodon est essentiellement hébergé chez un hébergeur, si on prend par nombre d'utilisateurs, un hébergeur allemand, un seul. Donc voilà, et une analyse de la manière dont l'IA continue à repousser les limites, enfin le début de l'utilité de l'informatique quantique. C'est une vidéo de la formidable Sabine Hussenfelder sur YouTube, que j'adore, qui explique comment, donc, à chaque fois qu'on se dit l'informatique quantique, ça y est, ça va devenir intéressant, et y a des choses qui font que ça repousse son utilité, et là, en l'occurrence, c'est l'IA. Donc, c'est une vidéo très intéressante qui sera aussi dans la newsletter. Eh bien, écoutez, vite fait, bien fait, bellement fait, j'irais même jusqu'à dire un grand merci à vous deux pour avoir été dans cette émission. Sommes-nous en train de découvrir le moyen de traiter les sujets sérieusement sans passer 40 minutes sur chacune de ces infos ? Je pense que le travail de 2024 s'ouvre bien. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de sujets hyper polémiques sur lesquels on a dû passer longtemps pour bien les expliquer, bien les analyser, mais un juste milieu sera trouvé. Merci Marion d'avoir été avec nous pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Bien sûr, merci à toi. Bah, vous pouvez me retrouver sur les différents X, Twitter et Copycat, généralement au pseudo Aizea Design quelque chose, si c'est Blue Sky, etc. Mais généralement, Aizea Design, vous allez me trouver. Et sinon, sur Twitch, tous les mardis matins de 8h à 9h pour l'émission Le Mug sur Naotech Team. Voilà.
Merci beaucoup, Marion. C'est toujours un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous. Damien, également, plaisir, honneur et privilège. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ?
Ben, merci de l'invitation, Patrick, une fois de plus. On peut me retrouver évidemment sur le site du Parisien, rubrique high-tech, sur X/ ancien Twitter à l'ancienne, at Damien Licata. Voilà, à peu près les principaux réseaux que je vais utiliser. On va, voilà, cette semaine traiter dans le Parisien, hein, on va encore parler d'IA et d'IA qui aide à découvrir effectivement des médicaments. Voilà, ça va être un des thèmes de cette semaine. On a eu quelques startups et quelques belles réussites où on va en parler, expliquer à quoi ça sert et comment on peut trouver des solutions pour soigner les gens.
Hyper intéressant ça. C'est un sujet que peut-être que je devrais évoquer, je l'évoque de temps en temps, mais on parle beaucoup évidemment d'IA générative avec des textes, des chatbots, des images parce que c'est flashy, mais la découverte, le pliage de molécules, ce genre de choses, aidé par IA.
C'est l'IA générative, c'est des LLM qui sont appliqués en fait à des molécules pour trouver ensuite la bonne molécule qui ira combattre la protéine qui cause une maladie, donc c'est assez fascinant. Il y a de belles réussites en France. Il y a l'industrie pharmaceutique qui commence à prendre le pli, donc ça devient intéressant de voir que ça peut se concrétiser, même dans l'année ou dans une échéance assez courte.
Eh bien, Le Parisien, pour découvrir tout ça, on mettra les liens vers vos réseaux sociaux dans les notes de l'émission, comme toujours. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick, un petit peu partout. NotePatrick.com pour toutes les infos et tous les liens. Et il y a aussi dans les notes de l'émission les liens vers le Discord, où on s'amuse bien, hein, comme toujours. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre si vous voulez une communauté sympa, bienveillante et où la bonne humeur règne, le Discord de la communauté NotePatrick. Vous avez aussi Twitch et YouTube où on est en live tous les mardis à midi pour faire cette émission avec vous. C'est un bon moment partagé également. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. C'est important d'y penser, pas forcément de le faire, mais au moins d'y penser, de se poser vraiment la question, est-ce que je veux soutenir Patrick et son émission ? Demandez-vous, là tout de suite, arrêtez-vous, dites-vous, est-ce que je veux le faire ? Partez sur patreon.com/rdvtech et peut-être que vous trouverez des récompenses sympathiques comme le fait qu'il n'y ait pas de pub, ou le fait qu'il y ait des contenus bonus, ou le fait que vous me permettiez de continuer à faire l'émission, la fierté qui vous habite quand vous franchissez ce pas. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Salut.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.